Disons que d'abord que les historiens n'ont pas pour rôle d'être des juges, mais d'essayer de comprendre et de faire comprendre. Or, la personnalité du général Guisan, qui n'est certainement pas un vaudois plein de rondeurs, reste encore un peu mystérieuse. C'est en effet un homme qui a été élu général alors qu'il était le seul officier de son rang à n'être pas un véritable professionnel. Il n'appartenait pas à l'armée de métier. Il est arrivé, semble-t-il, au bon moment. Et puis, il a eu une immense popularité, notamment parce qu'il a, le 25 juillet 1940, sur la plaine du Grütli, réuni tous les officiers de l'armée suisse pour parler de stratégie. En réalité, personne ne sait exactement ce qui s'est dit ce jour-là sur la plaine du Grütli, puisqu'il n'y avait pas de notes, pas de secrétaire, que tout était oral et que les participants n'avaient que leurs souvenirs et reconstituer leurs souvenirs après. Ce qui a tout frappé à ce moment-là, c'est que le discours du général Guisan s'est mis ou a été mis en opposition avec le discours qui lui était écrit, que l'on connaît bien, de Marcel Pilegola, un autre vaudois qui n'était pas non plus très rond, qui, le 25 juin 1940, a appelé la Suisse à serrer les rangs et à accepter davantage de gouvernements centralisés, de gouvernements autoritaires. Ce qui ne veut pas du tout dire de dictature. Marcel Pilegola ne s'alignait pas du tout sur le régime qu'avait proclamé le maréchal Pétain en France quelques jours auparavant. Mais évidemment, le général Guisan, qui peut-être n'était pas un grand stratège, mais était en tout cas un grand général politique, comme en France à l'époque le général de Gaulle, a su profiter de cette aspiration populaire de résistance pour apparaître, et c'est là l'origine du mythe, comme celui qui défendait les valeurs suisses, le réduit national. Ça, c'était l'option stratégique, mais elle entraînait l'abandon de tout le plateau suisse et de donc toutes les villes et de la partie la plus peuplée de la Suisse. Il a su incarner ses valeurs face à des hommes politiques qu'on jugeait trop enclins à certaines compromissions.
S'il fallait démystifier, sans aller trop loin, Bernard Lesca, ce soir, le général Guisan, avec toutes les précautions qui s'imposent, qu'est-ce qui vous paraît de l'ordre du mythe qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs sur la part du mythe concernant le général de Gaulle, un mythe qui revient tout le temps et qui n'est, selon vous, pas vrai?
Alors écoutez, le général Guisan a eu l'immense chance, comme d'ailleurs le pays tout entier, de ne pas voir ses options stratégiques confrontées à la réalité d'un pays envahi. L'Allemagne a envahi beaucoup de pays au printemps 40, elle n'a pas envahi la Suisse. Était-ce uniquement dû à la solidité de l'armée suisse, à la force que représentait le général Guisan? C'est peut-être un peu la part du mythe qui a été écornée plus tard, notamment par les événements des années 90, le rapport Bergier, mais aussi d'abord déjà 30 ans auparavant, le rapport Bonjour sur la neutralité, puis l'histoire de la neutralité du professeur Bonjour, qui montre que, au fond, le général Guisan n'était pas tout à fait neutre et qu'il s'appuyait, notamment grâce au colonel Masson des services secrets, fortement sur le haut commandement de l'armée française. D'où d'ailleurs quelques difficultés quand celle-ci a été anéantie par l'armée allemande.
Les Allemands l'ont appris, Bernard Lesca, ils ont appris que la Suisse pouvait s'appuyer sur l'armée française. Il y avait une sorte d'accord qui avait été signé en cas d'invasion. Et ça, ils ont tenté de faire pression sur le général Guisan, une sorte de chantage ensuite.
Voilà, mais enfin, ça n'a pas tout à fait marché. On remarquera d'ailleurs que 4 ans plus tard, lorsque le général de Lattre avance depuis le Chancy sur Strasbourg, il s'appuiera également pour couvrir son flanc droit le long du pied du Jura sur l'armée suisse. Il y aura des officiers d'ordonnance, de liaison entre l'armée suisse à la fin de la guerre et l'armée de libération française.
On parle beaucoup de la popularité du général Guisan. On dit souvent 300 000 personnes à ses obsèques en 1960, inédit en Suisse. 50 ans plus tard, que reste-t-il de cette popularité auprès de la population? Comment vous ressentez le regard des Suisses pour ce général Guisan aujourd'hui?
Alors écoutez, à part les portraits suspendus dans de nombreuses auberges, d'ailleurs tant en Suisse alémanique que dans le pays de Vaud et à la campagne, je pense que cette popularité, c'est surtout la popularité d'une génération. La génération qui a connu la guerre, qui a connu un certain nombre de difficultés et qui, au fond, s'est tournée vers le général Guisan comme un personnage clé de notre histoire à un moment donné. Aujourd'hui, je pense malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, c'est Brecht qui disait « heureux les peuples qui n'ont pas besoin de héros », que cette popularité, elle n'existe plus, elle est évanouie. On connaît le rôle de Guisan, comme on peut apprécier à nouveau le rôle d'autres hommes d'État. Il ne faut pas oublier que Guisan n'était pas seul. Il y a eu, pendant sa période de général, 3 ministres des Affaires étrangères, alors que la Suisse a eu les mêmes pendant plus de 40 ans. Motta d'abord, qui est mort en fonction. Pilegola, vaudois lui aussi, mais pas toujours sur la même longueur d'onde que Guisan. Et enfin, à la fin de la guerre, Max Petitpierre, qui est resté jusqu'en 1961. Mais je pense que ces hommes ont autant fait pour modeler la Suisse de l'après-guerre que le général Guisan. Alors la popularité, elle était immense, et puis aujourd'hui, on n'en conserve plus qu'un souvenir.